RMC entre les poteaux, Wilfried Templier.
Salut à toutes et à tous, nouvel épisode de l'entretien des poteaux, ces interviews exclusives de RMC Sport. Et à quelques jours du début du tournoi Destination, eh bien, on vous gâte, rencontre avec un homme dont on parle beaucoup depuis le début de la saison, son peps, ses percées, ses inspirations ont fait de lui un titulaire au Stade Toulousain et un nouveau capé en bleu. Et ce n'est peut-être qu'un début. Le trois quarts centre Calvin Gourgues est dans l'entretien des poteaux.
RMC, l'entretien des poteaux.
Bonjour Calvin.
Bonjour.
Est-ce que ta vie a changé en novembre dernier? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après?
Non, pas vraiment. C'est pas vraiment eu de changement. Juste ben voilà, un moment de plus où j'ai pu m'exprimer sur le terrain et j'ai adoré ce moment d'ailleurs. Mais ma vie n'a pas changé. Peut-être qu'on me reconnaît un peu plus, mais c'est tout. Après, dans ma vie personnelle, en tout cas, ça n'a rien changé du tout. Et ma vie à l'entraînement, pareil.
Mais on a dû t'en parler quand même. Tu dis,
on me reconnaît un peu plus.
Et juste après, il y a peut-être eu un petit changement là-dessus.
J'ai reçu beaucoup de messages. Mes proches en ont reçu aussi. Mais après, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie, en tout cas.
Est-ce qu'on peut dire que ça a matérialisé la fin de... Vraiment, ta période de galère?
Oui, on peut dire ça, mais après, c'est sûr que c'est pas une fin en soi, parce que ce que j'ai eu, ça peut revenir, donc il faut que je sois très vigilant et je continue à le surveiller. C'est une étape d'accompli, et maintenant, il faut aller chercher le plus de choses possible et surtout conserver une bonne santé.
Est-ce que tu peux expliquer aux gens, tu en as beaucoup parlé, c'est vrai, mais quand tu dis que ça peut revenir, voilà.
En fait, j'avais un caillot de sang qui faisait que se former dans l'artère poplitée à gauche, dû à une malformation de naissance. Et donc, quand je jouais, j'avais des symptômes assez récurrents qui revenaient, donc une insensibilité au niveau des orteils et du pied, le pied tout froid et tout blanc à la fin des entraînements. Et donc, à un moment, c'était pas normal, j'avais pas fait d'entraînement, j'avais le pied blanc, donc on allait faire des examens. Donc voilà, j'avais un caillot de sang, on a essayé de l'enlever une première fois, il est revenu. Et en fait, il faisait que revenir parce que mon artère était devenue thrombogène. Donc elle a plus de facilité à créer du thrombus, donc du caillot de sang. Et donc on m'a opéré une dernière fois en février dernier pour m'enlever cette partie d'artère qui est devenue thrombogène à cause des opérations, du fait qu'elle ait été endommagée. Et on m'a pris une veine dans la cuisse, la veine saphène, pour me la greffer à la place. Donc voilà, pour imager un peu pour les gens, c'est comme si on prenait un tuyau, qu'il y a un bouchon dans le tuyau. Hop là, on coupe la partie, on l'enlève et on refixe un nouveau tuyau dessus. Et voilà. Donc j'ai une nouvelle artère et maintenant ça va très bien, j'espère que ça continuera comme ça.
Mais tu dis que ça peut revenir, qu'il faut surveiller, c'est-à-dire
Il faut le surveiller car j'ai déjà eu ça dans le passé. Donc en fait, le corps humain, il est fascinant parce que tout n'est pas carré. Et il peut y avoir des dérèglements, plein de choses diverses. Et donc, il faut y faire attention. Et c'est pour ça que malgré le fait que ça soit de mieux en mieux à chaque... angioscanner que je fais avec l'angiologue. Angioscanner, pas du tout, un échodoppler, parce qu'un angioscanner, c'est assez invasif quand même. Donc oui, à chaque écho que je fais avec l'angiologue, c'est de mieux en mieux, il est très content. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut que je fasse attention à ce que je mange, ce que je fais aussi avec mon corps. C'est sûr qu'on ne va pas, avec ce que j'ai eu, aller en boîte, boire jusqu'à pas d'heure et pas s'hydrater et fumer des clopes, ça c'est mort. Il faut tout le temps être hydraté pour éviter que le problème revienne, parce que la déshydratation peut favoriser au retour de ce genre de caillots dans mes artères, donc il faut que je fasse attention à ça. Mais voilà, donc c'est pour ça que je reste vigilant, mais je profite tout autant sans me restreindre non plus.
Tout ça est plutôt pas mal quand on veut jouer au haut niveau.
Oui, complètement. Ça, c'est sûr que...
Là, je parle d'hygiène de vie.
Ah oui, non, mais l'hygiène de vie, c'est sûr que c'est le plus important. Pour nous, en tout cas, parce que notre outil de travail, c'est notre corps et il faut en prendre soin. Donc ça, c'est chacun à soi-même de toute façon. Mais c'est sûr que moi, avec ce que j'ai eu, je vais d'autant plus faire attention à mon hygiène de vie.
Ouais. Donc si je schématise un peu, Calvin, il se met jamais sur le toit.
Il a pu le faire et quand il le fait, s'il le fait, c'est très rare, mais il boit beaucoup d'eau pendant la soirée.
D'accord. Par contre, tu connais ton corps parfaitement, là, avec les termes que tu emploies, tout ça. Tu es plongé là-dedans, tu as été obligé.
Je connais mon corps, oui, j'ai eu pas mal de blessures. Et là, c'est sûr que sur ce sujet-là, je suis calé. Après, non, je ne le connais pas non plus parfaitement. On essaie de le découvrir petit à petit. Je suis quand même très jeune, donc j'espère ne pas avoir d'autres blessures plus graves ou plus longues. Mais on essaie d'y faire attention et de prévenir tout ça.
Est-ce qu'après tous ces mois, peut-être de doutes aussi, qui accompagnent tout ça, est-ce que tu as à un moment pensé renoncer ?
Non, pas vraiment. Moi, je restais tout le temps positif et optimiste parce que je me disais pas que c'était quelque chose qui allait pouvoir un jour gâcher mon rêve. Donc moi, je faisais confiance aux chirurgiens, aux angiologues, aux docs, au staff médical qui a été super durant toute ma convalescence. J'étais bien accompagné aussi, mes parents, ma copine, mes proches étaient vraiment là pour moi, pour me soutenir, et c'était aussi une aide. Et c'est sûr que dans ce genre d'épreuve, on en sort grandi, mais aussi on se rend compte de toutes les personnes qui ont été là pour nous. Et donc on fait tout pour les remercier à notre manière. Et c'est vrai que, en y réfléchissant, j'ai jamais douté une seule fois. J'étais plus triste de ne pas pouvoir jouer le week-end et donc de regarder les copains, que ce soit à la télé ou les espoirs, parce qu'avant je jouais plus en espoir quand même. C'était dur de le week-end passer des moments qu'on adore parce qu'on sait que qu'on va jouer un match ou qu'on va vivre un moment qui va nous faire vibrer, parce que quand on joue au rugby, on joue pour ça, pour jouer des matchs. Donc ça faisait mal d'aller à l'entraînement et de devoir m'arrêter dès qu'il y avait du contact, alors que j'aime bien ça. C'était très frustrant. Pendant bien 6-7 mois en cumulé, ça faisait beaucoup. Mais voilà, j'en profitais pour arriver à voir la vie différemment. Le week-end, du coup, je profitais quand même de regarder les matchs en famille, surtout pour pas venir au stade, me renfermer sur moi-même et commencer à déprimer tout simplement. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit, j'ai été très bien accompagné. C'est ce qui m'a fait aussi passer les semaines plus vite et arriver jusqu'à ma reprise en mai dernier de la meilleure des manières.
Et est-ce que cette expérience fait que tu appréhendes différemment tout ce qui t'arrive maintenant, avec un peu plus de recul et...
Oui, parce qu'on se dit que voilà, ça peut aller très vite. Pour l'instant, tout va bien, la santé va. Mais comme j'ai vécu en dernier, ça peut aller très vite et la santé ne va pas. Et donc là, ça peut être très dur. Donc voilà, je savoure chaque moment petit à petit, mais je prends chaque moment les uns après les autres. Et au fur et à mesure, je ne vais pas commencer à me projeter sur d'autres choses qui sont plus loin, parce que ça peut venir tout couper. Une blessure peut venir tout couper si jamais on croit trop en certaines choses. Donc voilà, match après match, entraînement après entraînement, et voilà, juste profiter après des moments libres pour être en famille, se reposer, savourer de chaque moment de vie, tout simplement. Mais voilà.
Si on revient ce samedi 22 novembre, ce France-Australie, est-ce que, encore aujourd'hui, te reste une image, des flashs, des choses comme ça ?
Ah oui, bien sûr. C'est tellement... Enfin, je pense qu'à l'instant T, c'est mon plus beau souvenir de toute ma vie, parce que c'est quelque chose qu'on imagine quand on est tout petit, qu'on regarde le 15 de France et qu'on joue dans son salon en s'imaginant un jour y être. Et c'est vrai que d'y être, ça fait tout drôle. J'ai plein de petits flashs des fois qui me reviennent. La Marseillaise, l'entrée sur le terrain, découvrir le Stade de France en y étant dessus la veille à la mise en place. Il y a plein de choses comme ça. Je vais prendre la globalité de la tournée, mais c'est vrai que s'entraîner avec de tels joueurs, avec un staff qui t'encadre bien, c'est quand même... Enfin, on touche à la perfection du rugby mondial avec toutes les autres nations, bien sûr. Donc c'est sûr que c'est impressionnant et on n'en garde que des bons souvenirs et on essaie d'en tirer le maximum de positifs pour avoir envie d'y retourner, se donner à fond, que ce soit en club ou quand on y retourne.
Il y a une immensité quand on est sur le terrain du Stade de France et qu'on regarde autour là, un peu.
C'est impressionnant, oui. On se sent tout petit et à la fois, on a l'impression que le terrain est tout petit. Enfin, c'est un peu spécial comme ressenti. C'est vrai que j'avais pu assister à la finale au Stade de France du Stade Toulousain contre La Rochelle il y a 2-3 ans déjà. Et c'est vrai que vu des tribunes, on avait l'impression que la pelouse était bien plus grande, bien plus spacieuse. Et finalement, quand on est dessus, ben, on a l'impression que c'est tout petit, que le stade est immense. Enfin,
c'est vertigineux un peu.
Ah ouais, c'est vraiment impressionnant.
Est-ce que tu peux décrire la sensation que tu as vécue sur ta percée ? Est-ce qu'il y a un côté... Enfin, tu l'as encore en toi à ce moment-là ?
Ben, cette sensation, je l'ai à chaque fois que j'arrive à percer sur un terrain ou à délivrer un essai, à marquer un essai. C'est des petits moments comme ça où tu es dans l'euphorie du moment et juste tu savoures. Je prends pour exemple ce week-end l'essai qu'on marque de 100 mètres qui parle du renvoi d'un but de Thomas. Juste le fait de faire un petit relais avec Mathis, de remettre à l'intérieur pour Antoine et de marquer, on était comme des gosses, quoi. C'était génial. Et en termes de sensations, ça m'a procuré la même joie que quand j'ai percé, quand je me suis rendu compte que j'avais percé. Après, t'entends plus rien, t'es dans ta bulle, tu te demandes comment t'as fait déjà pour passer, tu dis que c'est pas vrai. Et surtout, le plus important, c'est qu'on a réussi à finir juste après, parce que c'est sûr que de temps en temps, ça arrive de percer, il faut faire le bon choix, parce que faire une percée derrière qui n'est pas d'essai, c'est pas la même sensation. Et je pense que ce qui a fait que j'ai été vraiment dans une explosion de joie, c'est le fait que derrière, Louis arrive à marquer. Mais si j'avais raté ma passe, si j'avais pas fait la passe, peut-être que j'aurais pas vécu la chose de la même manière, en tout cas.
Mais c'est pas décuplé avec le maillot des Bleus au Stade de France, cette percée, je dis cette montée d'adrénaline, elle est pas...
Enfin, comme c'est la première fois, si, j'ai l'impression d'avoir ressenti la même chose que quand je suis rentré la première fois en top 14. Le fait de rien entendre alors que le stade est plein et qu'il crie, on est un peu dans sa bulle. Quand j'y repense, je sais pas trop à quoi je pense à ce moment-là. J'étais content de pouvoir courir à fond avec le ballon et derrière amener un essai. J'aurais pas pu imaginer mieux comme première, c'est sûr.
Tu disais tout à l'heure comme des gosses, c'est un peu ça. C'est une sensation d'enfant.
C'est ce qu'on ressent depuis qu'on est tout petit et d'arriver à le ressentir encore et à pouvoir l'exprimer sur des terrains de rugby à haut niveau, c'est vraiment un rêve qui devient réalité.
Est-ce qu'il a fallu digérer ces émotions au retour en club ou il n'y a pas eu de travail particulier? C'est quelque chose que tu fais normalement parce qu'on monte très haut dans les émotions, dans les sollicitations. Et comment on vit les semaines d'après?
Après, on essaie de plus trop y penser. Il faut essayer de redescendre de son petit nuage, ça c'est sûr. Sur ça, ici, il y a beaucoup de joueurs qui l'ont déjà vécu. Donc, sur l'accompagnement, c'est quand même plus simple à gérer. Ils savent quoi te dire. Ils ne vont pas commencer à te mettre sur un piédestal alors que tu n'as rien accompli, entre guillemets. Et puis aussi, mes proches ont su positiver, être très contents pour moi, mais aussi me dire de ne pas m'enflammer parce que le but, c'est d'y retourner et le plus de fois possible et de gagner des trophées avec. C'est sûr qu'y aller une fois pour plus jamais y retourner, ça ne sert pas à grand-chose. Il ne faut pas se croire arriver et se dire que ça y est, on est à notre place alors que c'est tout nouveau. Il y a encore plein de choses à prouver et il faut être plus sûr de la constance que sur un coup de génie. Donc j'ai réussi après quelques jours. Le soir même, j'étais super content. Après, il y a le retour en club. Et il fallait déjà qu'on prépare le match contre le Racing, donc directement on est focus sur ce qui se passe le week-end d'après. Et j'ai réussi à vite redescendre de ce petit nuage, comme je l'ai déjà dit. Et après, le plus important, c'est de vite retourner à préoccupation numéro 1, donc top 14 la semaine qui a suivi, et après la Champions Cup qui est arrivée juste après.
Qu'est-ce que tu as découvert à Marcoussis Parce que tu connaissais Marcoussis, mais qu'est-ce que tu as découvert à Marcoussis dans ce cadre-là, toi? Tu parlais du staff, des joueurs, est-ce qu'on sent qu'on touche le très haut niveau?
Oui, on le sent sur les entraînements avec la qualité des joueurs avec lesquels on joue. On a eu aussi pas mal de réunions, etc., où tout était bien encadré, bien carré. Et après, c'est sûr que ça change pas forcément trop, on va dire, sur un rythme comme avec les U20 ou les U18, parce que je pense, au vu de ce que j'ai découvert plus jeune, qu'ils essaient de faire sur le même schéma pour que quand on arrive là, si on peut y arriver, ben, qu'on ne soit pas étonné, perdu et qu'on sache un peu déjà quels sont les types de comment ça s'appelle quels sont les types de séquences qu'on va faire, le rythme des réunions, etc. etc. Donc c'était pas non plus impressionnant que ça, mais c'est vrai que on joue avec les meilleurs joueurs français et on sent que tout le monde mérite sa place et tout le monde est à un niveau vraiment très élevé.
Est-ce qu'il y a des joueurs qui te prennent sous leur aile ou on se débrouille à 20 ans et c'est la sélection, c'est... Alors, il y a beaucoup de Toulousains, donc ça peut aider aussi.
Oui, c'est sûr que j'ai été aidé par ça. Les Toulousains, puis ils sont super, franchement, mais tout le monde a été super là-bas, que ce soit les plus anciens ou même les plus jeunes. C'est sûr qu'on a plus d'affinité avec les plus jeunes au début. Je pense à Fabien Broboiry, avec qui j'ai fait toutes les équipes de France jeunes. Donc de se retrouver là, on était super contents. La première semaine, d'ailleurs, on était en chambre ensemble, donc ça s'est super bien passé. Et après, non, franchement, ils sont super cool. Je pense à Gaël Ficou, qui, lui, a un peu ce rôle-là d'ancien, de grand frère un peu. Et il nous a pas mis à l'écart, il était là, il venait nous parler. Enfin, franchement, c'était vraiment génial. Après, on pouvait se faire des parties de ping-pong avec peu importe les joueurs, peu importe l'âge des joueurs, l'ancienneté des mecs en équipe de France, les nouveaux, etc. Donc ouais, c'était vraiment une super ambiance, que ce soit avec les 42 joueurs sur les débuts de semaine ou avec le reste des joueurs quand il y a eu le match contre l'Australie. Non, franchement, c'était un super moment.
Il y a un patron d'équipe de France, Antoine Dupont, que toi, tu côtoies ici.
Oui.
C'est, voilà, c'est un patron de peu de mots, Antoine ? Peut-être pas, parce qu'on a nous ce qu'on voit, est-ce que vous vivez en groupe
C'est sûr que c'est pas le plus bavard devant les caméras, mais avec nous, il parle et à bon escient. Il va pas, à contrario de Thomas, parler tout le temps et nous guider tout le temps avec une voix assez forte, parce que Thomas, ben, on l'entend beaucoup et il nous aide vraiment beaucoup aussi. Mais Antoine, il est plus dans l'efficace, dans ce qu'il dit, c'est incisif et tu le comprends direct. Et derrière, ça t'aide vraiment à changer peut-être la perception de quelques trucs. Mais voilà, il a cette vision que beaucoup de joueurs n'ont pas. Et c'est sûr que il faut l'écouter, le suivre, parce que il réussit souvent dans ce qu'il fait, parce qu'il tente des choses que d'autres ne voient pas. Et si on arrive à bien graviter autour et à pouvoir l'aider à créer des intervalles, il peut nous offrir des caviars comme il a fait des dizaines, des centaines de fois auparavant et même maintenant, quoi. Donc ouais, voilà, franchement, c'est moins leader par la parole, on va dire, même si c'est lui qui fait les discours avant les matchs quand il est capitaine. Mais très efficace dans ce qu'il dit et on a vraiment envie, quand on rentre sur le terrain, de se battre pour lui, pour l'équipe et pour le maillot. Donc, voilà.
On a parlé de la tournée d'automne, mais le tournoi destination, est-ce que c'est différent encore en aura, en voilà, prestige ?
Ah ben ça c'est sûr, c'est une compétition qui est gravée dans le temps. Depuis que je suis tout petit, j'ai regardé je ne sais pas combien de tours à destination. Même quand la France était un peu plus compliquée à une certaine période il y a quelques dizaines d'années. Donc ouais, c'est un tournoi très prestigieux, il y a de grosses équipes. Franchement, là le tournoi il n'est pas fait du tout. Tout le monde peut aller chercher un titre, donc c'est sûr que ça donne envie d'en être et de pouvoir découvrir l'atmosphère qu'il y a autour de cette compétition.
Ouais, les stades. Il y a des trucs comme ça, il y a des...
Ah, le stade qui donne, je pense, pour moi le plus envie, c'est quand même Murrayfield. Ça... Il y a l'hymne a cappella avec la cornemuse, enfin, il y a toute cette atmosphère qui fait que... À chaque fois que j'ai regardé un match, que ce soit de la France ou d'une autre équipe en Écosse, à chaque fois, c'était fort en émotion l'hymne, et après derrière le match, il était souvent quand même de haut niveau, donc... Je pense que c'est pour moi le stade qui m'attirait le plus à découvrir, en tout cas.
Quelle est ton ambition par rapport à l'équipe de France ?
Ben, essayer de pouvoir rentrer dans la rotation, gagner ma place, comme chaque joueur qui veut atteindre le plus haut niveau dans le rugby. Donc voilà, sans prétention, je ne veux pas... prétendre que je vais y être facilement, mais en tout cas, je vais travailler d'arrache-pied pour pouvoir essayer de gagner cette place, de gagner une place dans le groupe et de pouvoir jouer un maximum de matchs avec l'équipe de France. C'est sûr que c'est l'objectif.
C'est quoi ton poste ?
Centre, demi d'ouverture, arrière, mais on va dire plus centre quand même, mais je peux dépanner aux deux autres postes. Mais j'aime bien jouer un peu tous les postes. J'ai bien aimé le match à Perpignan à l'ouverture, c'était assez sympa à jouer comme match. J'aime bien buter, donc c'est sûr que ça rajoute un peu de challenge, mais à la fois ça met aussi en confiance. Mais bon, avec Thomas devant, ça va être compliqué d'aller prendre sa place. Surtout, il était en feu ce week-end. Donc.
Mais c'est le centre, c'est celui où tu t'épanouis le plus ou...
Je pense que à l'instant T, c'est ouais, le poste avec lequel je prends le plus de plaisir. Je joue sans trop me prendre la tête. La responsabilité de la gestion du jeu, elle est plus sur l'arrière, demi d'ouverture, demi de mêlée. Donc on peut se focaliser sur des tâches plus simples à réaliser et aussi sur tout ce qui est une question d'activité, de placement. Et donc derrière, il faut jouer les coups à fond et franchement, ouais, c'est quand même cool de jouer centre. Moi, je me régale.
Qu'est-ce que tu aimes sur un terrain ?
Qu'est-ce que j'aime ?
Les espaces ?
Gagner,
ouais,
gagner tout simplement. Oui, j'aime les espaces, j'aime créer des espaces, que ce soit ballon en main ou course à vide pour libérer de l'espace autour de moi. Si je peux faire un bon leurre et libérer un trou, je serais tout autant content que de marquer un essai. Donc, ouais, je pense que... En fait, j'aime un peu tout sur un terrain de rugby. J'aime bien taper au pied, j'aime bien plaquer, j'aime bien jouer les coups, venir dans les rucks. Enfin, franchement, j'aime tout faire, juste être sur le terrain de rugby, c'est... J'adore.
Mais l'intervalle, c'est ce qui peut te griser un peu ? On parlait d'adrénaline tout à l'heure.
Ça, oui, l'intervalle, ça doit, c'est sûr que ça donne envie, mais ça, c'est un peu à tous les postes pareil. On cherche à créer l'intervalle ou à prendre l'intervalle pour marquer. Au final, ça revient à la même chose. Le but, c'est de marquer des essais pour gagner. Donc, on va dire ça pour la question, mais en vrai, quand on est joueur de rugby, je pense qu'on aime tout faire.
D'où te vient ce peps, ces qualités physiques ? Tu as toujours eu ces qualités depuis...
Côté de ma mère, je dis peut-être. La vitesse peut-être de mon père, parce qu'avant il jouait ailier au Stade Montois en espoir, mais non, sinon peut-être de ma mère, elle a des gènes de Nouvelle-Calédonie parce qu'elle est de là-bas, donc peut-être que ça m'a aidé à avoir ce côté un peu gazif qu'ont les personnes d'outre-mer et principalement de Nouvelle-Calédonie. Il y en a beaucoup qui jouent en France d'ailleurs, des Wallis ou des Néo-Calédoniens, donc... C'est sûrement grâce à ça, mais après, c'est aussi tout un travail depuis tout petit. Oui, on bossait beaucoup la motricité quand on était petit, dans mon petit club à Grenade-sur-Garonne. Et je pense que c'est très important quand on est jeune de bosser ça pour ensuite, quand on grandit, arriver à pouvoir avoir des facultés à courir plus vite, à se déplacer, à enchaîner les tâches et avoir des bons appuis.
Ils sont en feu à Grenade-sur-Garonne, non ? Quand, avec presque ce qui s'est passé pour toi ?
J'ai eu une personne qui est venue me voir après le match de samedi pour me dire voilà, j'ai fait un peu la pub au club et les U12 ont trop de demandes pour venir au club, donc ils ont dû refuser malheureusement des licences. Donc d'un côté, je suis un peu flatté, mais bon, c'est dommage que j'espère que ces jeunes qui n'ont pas pu être acceptés on joue au rugby quand même.
C'est et génial de se dire ça.
Oui, c'est génial. C'est vrai qu'ils étaient déjà une soixantaine en U12. Ils ne pouvaient pas en prendre plus parce que ben, sinon, on peut pas, tu ne peux pas faire 5-6 équipes sur une catégorie. Ce n'est pas possible. Donc, c'est très flatteur et j'espère qu'il y aura encore plus de personnes qui s'inscriront au rugby et qui, j'espère, un jour arriveront au plus haut niveau.
Dernière question. À 20 ans, est-ce que tu as ? On doit avoir des modèles très contemporains quand même. Des modèles de joueurs avec qui tu as grandi. Enfin, voilà, des joueurs qui te fascinaient ou...
Oui, bien sûr, il y en a plein. Après, pour ne pas tous les citer, je pense surtout à Dan Carter avec les All Blacks quand j'étais plus jeune. En grandissant, On voit d'autres styles de jeu, d'autres joueurs émerger et performer. Mais c'est vrai que en grandissant, j'étais plus sur du Romain Tamac, avec qui maintenant on partage le terrain et c'est super. Mais c'est vrai que quand on voit des jeunes arriver au plus haut niveau, en fait, on a envie de les imiter et ça devient forcément des exemples. Mais voilà, c'est le. On va dire, je vais m'arrêter là parce qu'en vrai, il y en a plein d'autres. Il y a tellement de bons joueurs et d'excellents joueurs qu'on regardait quand on était plus jeune. Ça va faire beaucoup.
Tu lui as dit Romain?
Non, je ne l'ai jamais dit, je crois.
Bon, ça va le vieillir un peu.
Non, il est encore très jeune.
Merci Calvin.
Avec plaisir.
Voilà, on espère que vous avez apprécié cette interview, que vous avez pu découvrir un peu plus Calvin et qu'il vous fera vibrer très prochainement avec le maillot bleu. En attendant, continuez à suivre nos podcasts, les entretiens, mais aussi tous les lundis, voire les vendredis, veille de Top 14. Venez commenter, donner vos remarques, elles sont très importantes pour nous. Merci de votre fidélité et rendez-vous au prochain épisode. Salut!